allez me dire où vous vouliez une prime. Je tolère tout sauf le mensonge. C'est OK, plus 3 jours de repos.
Merci, ils sont contents.
Gabriel, stop, stop, stop. Hola.
Le 13 février est sorti en salle Goodbye Morocco, quatrième long métrage du réalisateur franco-algérien Nadir Moknesh. Dans le rôle principal, Loubna Azabal interprète Dounia, mère divorcée à Tanger. Elle dirige un chantier immobilier où le terrassement met à jour des tombes chrétiennes datant du 4e siècle. Dounia se lance alors dans un trafic lucratif, espérant gagner très vite de quoi quitter le Maroc avec son fils et son amant. Mais jusqu'à cette nuit où tout va basculer sur le chantier.
Il y a un problème.
Reste-moi, c'est pas ce chantier.
Vous êtes tranquille du côté de vos ouvriers?
Rien à craindre. Les étrangers sont papiers.
Bon, ça suffit. Je vais tous vous virer.
Radama, quitte le bois, la Gabriel.
Goodbye Morocco est avant tout un film noir, sous fond de drame sentimental et traite sans concession des tabous de la société musulmane, tels que le mariage interreligieux, l'homosexualité, la misère sociale et l'émancipation féminine. Retour sur cette œuvre bouleversante avec son auteur.
Moi d'origine, j'aime bien les films non linéaires, c'est-à-dire avec pas de chronologie, où on est baladé un peu, où le spectateur doit faire un effort pour voilà, donc on est toujours un peu en haleine, quoi. Et donc j'aime bien cette narration non linéaire. Et en même temps, comme je voulais faire un film de genre, et je me suis posé la question s'il fallait faire un récit linéaire ou s'il fallait non linéaire. J'ai pris la décision de ça. Et il y a un troisième point. C'est la fameuse nuit qui est quand même une nuit très importante. À quel moment on va la révéler? Est-ce qu'on la révèle au début? Est-ce qu'on la révèle à la fin? Et donc tout était quand même autour de cette fameuse nuit, et forcément le résultat était qu'il fallait faire une narration non linéaire.
Et je vous fais sortir votre fils du Maroc. Je fais sortir des œuvres d'art. Je peux bien faire sortir un enfant.
Maman, je te pas bizarre de flous. Moi, c'est juste comme Maya.
Je veux vivre ici, moi. Je suis bien au Maroc avec toi.
On n'aura jamais la guerre de Jawed. Même si on se marie, tu deviens musulman. Et qu'on arrose le bon Dieu lui-même.
On ne sait pas. Moi, j'aime bien le début du film. Hein. Évidemment, c'est moi. Mais en même temps, je trouve que c'est un début très énigmatique. C'est-à-dire, on voit cette femme. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et pour moi, c'est vraiment, elle se lève le matin et elle se dit comment je vais résoudre comment je vais résoudre mon histoire. Et c'est vrai que ça crée cette ambiguïté, relation avec. D'ailleurs, c'est elle qui nous conduit vers Dimitri, puisqu'on la voit, elle va dans la chambre, elle s'assoit, elle se retourne, et tout à coup, on la voit avec un autre bonhomme. Elle téléphone à un bonhomme, on la voit avec un autre bonhomme, on se dit, mais voilà, est-ce que c'est son mari? On est dans le questionnement, et après, c'est vrai qu'il y a des ambiguïtés, la relation avec Ali, la relation avec Dimitri, et puis petit à petit, on va découvrir qu'elle est divorcée, qu'elle n'a pas la garde de son enfant, qu'Ali, il s'avère que c'est le fils de la bonne, et donc ils ont vécu ensemble petits, voilà, donc... Petit à petit, on découvre, parce que la question aussi, quand on écrit un scénario, on se dit, mais comment on va pouvoir dévoiler les personnages? Donc, c'est pas très simple, toujours, est-ce qu'on va les exposer tout de suite, ou est-ce qu'on va essayer de petit à petit, de dévoiler un peu leur l'histoire, c'est-à-dire l'action, l'énigme, et puis les personnages et leurs relations.
Chikon?
Dounia.
Je ne veux pas.
Je ne veux pas.
Mais ce n'est pas de toi.
Je sais, Zouina. Juste 5 minutes.
Il n'y a pas de personne. Et il n'y a pas de
personne. Tu ne veux pas. C'est le jibé.
Alors, pourquoi Tanger? Alors, la raison première, c'est que Bélis Paloma, qui est sorti en 2007, a été interdit de sortir en Algérie. Donc, il n'a pas obtenu le visa d'exploitation. À partir de ce moment-là, il y a comme une sorte d'interdiction de tournage. Hein. Et puis, j'avoue que j'étais... Bon, je sais que la censure existe, bien sûr, mais bon, quand même, je trouve ça un peu blessant, quand même, que vous vous battez pour faire des films, et puis après, on vous dit... Alors, C'est pas une grosse sortie, hein, l'Algérie, il y a très peu de salles maintenant. Mais c'est symbolique de pouvoir sortir. Et qu'on vous interdise de sortir, en plus, on applique vraiment l'interdiction. Alors que, évidemment, il y a plein de lois qui ne sont pas appliquées. Mais cette interdiction-là, elle a été bien appliquée. Puisque malgré, il y a eu des petits festivals au fin fond du pays, et ils ont eu peur de projeter Denis Palomar. À partir de là, je me suis dit, ben voilà, il faudrait que je parte, en tout cas faire un scénario ailleurs. Et puis, j'ai eu cette histoire avec les fouilles archéologiques, et je m'étais dit que Tanger pouvait être la ville la plus propice, quoi, la plus intéressante par rapport au site, parce que le site de Tanger quand même reste exceptionnel. Hein. Et puis il y a cette histoire de tous ces Africains qui traversent le continent et qui s'arrêtent à Tanger. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut. Et puis il y a cette, en même temps, c'est un monde entre deux, quoi. Elle est entre deux, le personnage de Dounia, c'est-à-dire qu'elle est, elle a un pied dans l'Europe, mais elle a un pied en Afrique. Elle vit avec un gars, mais elle n'a pas le droit de vivre avec lui. Enfin, il y a vraiment cette ambiguïté. Hein. Et Tanger, il y a un peu ça. Parce que pour moi, je me suis toujours posé la question. Alors, un habitant de Tanger, quand il est là, sur son banc, et qu'il regarde les côtes espagnoles, il les voit. Hein. Et il voit les petites voitures qui roulent et tout. Il pourrait se poser la question, pourquoi eux peuvent faire certaines choses et que moi, je ne peux pas faire ? Pour moi, Dounia, elle pourrait se poser aussi la question. Pourquoi là-bas, une femme peut épouser même une autre femme? Et pourquoi moi, je ne peux pas épouser mon homme? Enfin, et je me dis qu'on peut se poser ces questions-là. Alors pourquoi là-bas, c'est possible et ici, ce n'est pas possible? Après, évidemment, ça, c'est mon point de vue. Pour moi, c'est une évolution. Enfin, une société, ça évolue avec le temps. C'est pas parce que vous êtes né comme ça qu'il faut rester comme ça. Donc voilà, l'Espagne, ils ont fait un effort très important sur les libertés individuelles. Et pourquoi pas de l'autre côté aussi. Ouais.
Je veux parler à ma fille.
Un instant, s'il vous plaît. C'est pour toi ? Ta mère ?
Zefhalek. Dounia. Zefhalek ! Sous-titrage الله يرضي
ما كان خلصك شبه السريها سمعتيني
دنيا سمعيني
Il y a une histoire comme ça qu'un architecte suisse m'a raconté, qui est une marocaine qui est un promoteur immobilier, je crois qu'on dit un promoteur, un promoteur immobilier, qui spéculait sur des terrains en bord de mer et qui apparemment était assez violente, qui pouvait aller vraiment vers des menaces de mort si elle ne pouvait pas obtenir ce qu'elle voulait. Donc ça, c'est un personnage assez fort qui était intéressant. Hein. Après, j'ai pas su grand-chose sur ce qui se passait exactement. Mais en même temps, si vous rentrez dans cette société par l'intérieur, vous trouvez évidemment que les femmes à l'intérieur ont du pouvoir. Vous pouvez trouver différentes...
Pas que dans la sphère privée, finalement. Hein.
Il y a une sphère privée, mais aussi, évidemment, après l'extérieur. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le personnage, c'est que vous avez beau être libre, comme elle est Dounia, c'est-à-dire vous prenez des positions, mais à un moment donné, vous êtes rattrapé, soit par le système, soit par les lois, soit par le destin. Moi, je trouve que le destin est important dans le film, vraiment, parce que, voilà, vous êtes à un moment donné rattrapé. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est pas simplement de montrer une femme battue par son mari ou par son frère ou par son père. C'est de montrer à quel moment vous êtes rattrapé par un système, des lois, par le destin. Voilà.
C'est bien ce que je croyais. Des catacombes chrétiennes.
Elle est superbe. Combien ça peut valoir ?
1 million d'euros.
Pour moi, c'est vraiment l'idée de parler d'une période historique méconnue. Voilà. Qui est très riche, qui est importante, qui est intéressante, de parler de cette période. Et j'ai bien précisé, même dans le film, c'est entre 180 et 312. Pourquoi entre 180 et 312 ? Parce que 312, c'est la conversion de Constantin. Et à partir de la conversion de Constantin, le christianisme devient religion de l'Empire. Mais moi, je parle d'avant Constantin, enfin d'avant la conversion. Donc c'était une religion des gens, enfin des petits gens, quoi, des pauvres. Et donc, il y avait des martyrs, il y avait des gens qui se convertissaient, et puis il y avait cette culture parce que l'incinération est interdite normalement dans le christianisme, et donc il fallait, quand on enterrait ses morts, donc il y a les catacombes, et puis il y a ces peintures. Et vous avez des catacombes actuellement qu'on peut visiter en Tunisie, par exemple. Donc je trouvais vraiment ça intéressant pour créer aussi donc un lien, de dire, vous savez, il y a quelques siècles, il y a des concitoyens qui étaient notre religion, et puis voilà, les choses ont évolué ou ont changé.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Ils disent qu'ils ne sont pas là pour fouiller les tombes, ils sont là pour construire une maison.
Bon, ça suffit. Je vais tous vous virer. Si vous ne reprenez pas le travail tout de suite, je vous vire, j'engage les Marocains, c'est compris? Tu leur traduis.
Les sociétés du Maghreb, c'est des anciennes sociétés d'esclavagistes. Et puis l'esclavage, il a disparu sans disparaître. C'est-à-dire, quelle est notre relation avec l'Afrique noire? Est-ce qu'on en parle? C'est intéressant de parler de cette... Parce que c'est pas juste pour faire comme tout le monde, parler d'esclavage et parler de nos comportements. C'est aussi un rapport donc, avec la démocratie. Parce que tout ça, tout ce que je dis, moi, c'est... Ça revient au même problème, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte qu'un individu, la voix d'un individu, c'est-à-dire qu'il va voter, il va mettre son bulletin, est-ce qu'on accepte qu'un individu puisse mettre son bulletin dans une urne? Est-ce qu'on accepte sa voix? Ou est-ce qu'on se dit, non, lui, il n'a pas le droit de voter, c'est un imbécile, lui, c'est un plouc, lui, c'est un pauvre, et c'est ça, mon idée. Et je trouve que le comportement vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'esclavage, qu'on retrouve au Brésil, par exemple, qu'on retrouve... comment on le règle? Et je pense que si ces choses-là sont réglées et qu'on en parle, ça peut aider, parce que le comportement... avec les bonnes. Le Maroc, c'est quand même un pays de bonnes, quoi. Il y a un nombre de... vous allez dans des maisons, il y a 3-4 bonnes. Et quand j'ai fait le repérage pour les maisons, vous avez toujours 2 bonnes, 3 bonnes, 4 bonnes. C'est quoi notre... Parce que, ok, vous avez une femme de ménage, elle prend 15 euros de l'heure, elle travaille, elle prend 15 euros de l'heure, elle fait son ménage, elle s'en va. Et voilà, donc je trouve que... Et puis ça nous ramène à est-ce que la bonne a le droit de vote ou pas? Oui, je trouve que... Non.
C'est pas un kidnapping. C'est une mère qui veut récupérer son fils.
Goodbye Morocco de Nadir Moknesh sur les écrans depuis le 13 février.